Depuis maintenant une semaine, à travers la liturgie chorale quotidienne, à laquelle, frères et sœurs, vous n'avez peut-être pas accès, au moins pas tous les jours, voire pas toutes les heures, à travers la liturgie chorale quotidienne, un véritable feu d'artifice messianique est célébré par de très nombreuses antiennes. Les antiennes, c'est ce que l'on chante juste avant un psaume. Or, en cent myrrhes, rien n'y manque, sans oublier les étoiles. Et toute cette liesse nous conduit aujourd'hui au mystère lumineux qu'est le baptême du Seigneur. Peut-être vous souvenez-vous de ces mystères lumineux institués par Saint Jean-Paul II en 2002, que sont les mystères lumineux ajoutés aux trois autres mystères du rosaire traditionnel. C'est justement ce baptême de Jésus qui ouvre la méditation de ces mystères du jeudi, car les mystères lumineux sont médités le jeudi. Chaque jour aussi, depuis une semaine, nous chantons aux Vêpres une hymne du 5e siècle qui non seulement commémore l'Épiphanie, ce qui est cohérent dans la semaine qui suit l'Épiphanie, mais qui nous a aussi préparé à la fête d'aujourd'hui et qui nous oriente encore vers celle de dimanche prochain, les noces de Cana. Cet hymne réunit en effet l'Épiphanie, le baptême du Seigneur et donc les noces de Cana. Les pères de l'Église, en effet, ont bien compris que ces trois célébrations étaient l'expression d'un même mystère lumineux, l'annonce d'une même libération victorieuse, l'apparition de l'époux de l'Église à naître. Notez, frères et sœurs, que la liturgie grégorienne diurne, c'est-à-dire du jour, est une véritable théologie musicale qui met en note la foi de l'Église. Et comme le dit l'adage latin, « lex orandi, lex credendi », ce que l'on dit et chante, on le croit. Mais il est temps d'en venir à l'Évangile que nous venons d'entendre. De même que le temps de l'Avent s'est pour ainsi dire ouvert avec l'apparition de Jean le Baptiste, c'est de nouveau lui que nous retrouvons aujourd'hui au terme du temps de Noël. Jean est le transmetteur, le témoin. Et même encore mieux, il est celui qui transmet le témoin véridique. Un peu comme les athlètes du stade dans la course de relais se transmettent le témoin. Le baptême que Jésus reçoit en ce jour n'est pas identique à notre baptême chrétien. Ce n'est pas Jésus qui est purifié, c'est Jésus qui purifie les eaux. Pour expliquer l'opération qui s'est ici produite, il convient de laisser encore une fois la place, ça ne vous étonnera pas, à l'antienne grégorienne du Benedictus au jour de l'Épiphanie. Hodie celesti sponso iuncta est ecclesia, quoniam in Jordane lavit Christus eius crimina. Aujourd'hui, l'époux céleste s'est uni à l'Église, car dans le Jourdain, le Christ a lavé les péchés de celle-ci, l'Église. Jésus n'est donc pas descendu dans le Jourdain pour se purifier, mais au contraire pour purifier les eaux du Jourdain et aussi pour baigner celles qui, surgissant à la croix de son côté transpercé, sera bientôt son épouse. En nous lavant, il a enlevé les péchés qu'il n'a pas commis. C'est donc chacun de nous qui est aujourd'hui lavé par avance, en quelque sorte. Il y a peut-être ici un clin d'œil avec la conception immaculée de la Vierge Marie, elle-même préservée par avance, bénéficiant par avance des mérites du Christ. Cette immersion de Jésus dans les eaux du Jourdain nous apparaît donc comme un condensé de la vie tout entière de Jésus, un résumé, mort et résurrection pour notre salut. Le texte nous dit en effet que Jésus remonta des eaux, ces eaux qui figurent dans les Écritures la mort. Et tout à l'heure, en entendant les sœurs chanter le graduel c'est ce qu'elles chantent après la première lecture. Eh bien, il y avait la même mélodie que les mélodies que nous entendons après chaque lecture durant la vigile pascale, comme pour montrer que cette fête a déjà un goût pascal. Or, aussitôt que Jésus remonte de l'eau, trois choses importantes arrivent qui sont mentionnées et trois qui ne le sont pas. Vous l'avez entendu, mais avez-vous été attentif? Le texte nous dit que Jésus priait, ce qui est un acte qui dure dans le temps. Ce n'est pas Jésus à prier. Jésus était en train de prier. He was praying. Il remonte de l'eau en priant. Et ce qui ne nous est pas dit, c'est si Jésus s'est arrêté de prier. D'après le texte, il apparaît qu'en entrant dans l'eau du Jourdain, Jésus est simultanément entré dans une sorte de prière permanente. Cette prière va l'accompagner durant tout son pèlerinage terrestre. Son humanité est pour ainsi dire devenue à ce moment précis prière. C'est évidemment pour nous un encouragement à demeurer toujours dans la prière, c'est-à-dire à faire de toutes nos actions, même les plus insignifiantes, une prière, une relation filiale avec notre Père des cieux. Quelle merveille ! La deuxième chose qui arrive, tandis que Jésus remonte du Jourdain en prière, c'est l'ouverture des cieux. L'évangéliste Luc tient manifestement à ce que nous constations l'effet immédiat de la prière de Jésus. Elle ouvre les cieux. Et là aussi, cela vous rappellera peut-être quelque chose, mes chères sœurs, il n'est pas écrit que les cieux se soient refermés. Il semble au contraire que les cieux soient restés ouverts au-dessus de Jésus tout le temps de sa vie publique. Jésus accomplit ici même la prière d'Isaïe dont la voix exprimait tout le désir de son cœur. « Ah, si tu déchirais les cieux et descendais !» Jésus accomplit encore une fois l'Écriture. Eh bien voilà, Jésus a bel et bien déchiré les cieux. Et il l'a fait par sa prière filiale. Et puisque nous sommes désormais fils dans le Fils, ou filles dans le Fils, ayant été adoptés par Dieu depuis notre baptême, nous découvrons aussi que notre prière, lorsqu'elle est conforme à la volonté de Dieu, a ce pouvoir d'ouvrir les cieux. Quelle merveille! L'Esprit Saint descendit sur Jésus, c'est le troisième volet de cette merveilleuse scène du baptême de Jésus. La colombe qui descend est la même que Noé laissa partir au jour du déluge et qui la troisième fois ne revint pas. La voici qui redescend sur le nouveau Noé pour signifier que nous sommes sauvés des eaux de la mort éternelle. Je crois que tant qu'on n'a pas compris que la damnation éternelle, c'est quelque chose de possible, on n'a pas bien compris à quoi sert le salut. Le baptême de Jésus abolit définitivement le déluge du péché et de la mort dont il ressort victorieux. Tel est le témoignage de l'Esprit-Saint figuré par cette mystérieuse colombe que mentionne l'évangéliste. Et là encore, troisième événement caché, il n'est pas écrit que cette colombe repartit vers les cieux demeurés ouverts. Elle demeure présente à l'humanité de Jésus. C'est alors que se fit entendre une voix, la voix d'un cri de joie, la joie d'un père comblé par l'amour oblatif de son Fils unique devenu l'un des nôtres, conduit par l'Esprit vers la rédemption définitive du monde. Le baptême du Seigneur se révèle donc aussi comme un mystère joyeux, un mystère très joyeux au cœur même de notre Père des cieux. Puissions-nous entrer, nous aussi, dans toute la vérité et l'oblation de cette filiation, en sorte qu'à la suite du Christ, sous la motion de l'Esprit, et les cieux étant ouverts, nous fassions la joie de notre Père des cieux. Amen.